VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Ghana, les premiers bulletins de vote dépouillés laissent prévoir un résultat très serré entre le président sortant John Dramani Mahama et son rival Nana Akufo-Addo. Les précisions de Nani Talani.
11 des 275 circonscriptions ont été jusqu'à présent comptabilisées selon la commission électorale. 7 candidats sont en lice, mais la bataille se joue entre les rivaux historiques. Le président sortant John Dramani Mahama, qui brigue un second mandat, a une très légère avance sur son rival Nana Akufo-Addo, qui se présente pour la troisième fois. Le site de la commission électorale ne fonctionnant pas, c'est sur Twitter que l'instance publie ses premiers résultats. Elle affirme qu'une double vérification doit avoir lieu, vu les possibles bourrages d'urnes dans certains bureaux de vote. Tout le monde attend avec anxiété ces résultats qui devraient tomber au plus tôt ce soir et au plus tard samedi. Si aucun des deux principaux candidats ne remporte plus de 50% des voix, un second tour aura lieu courant décembre.
Au Mali, reprise aujourd'hui à Sikasso du procès d'Amadou Ayassane Ogo, l'ex-chef de la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2012. Le point avec notre envoyé spécial à Sikasso, Kassim Traoré.
À la reprise de l'audience ce jeudi 8 décembre 2016, la Cour donnera son verdict sur les exceptions des avocats de la défense. Cette décision déterminera la suite du procès. Les avocats de la défense ont présenté une batterie d'exceptions.
Le dossier n'est pas en état d'être jugé. Les expertises ont été faites contrairement à la loi. Les témoins n'ont pas comparu.
Les avocats de la défense ont contesté la compétence de la Cour d'assises. Selon eux, elle ne peut pas juger cette affaire militaire. Des affirmations contredites par la partie civile. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes.
La loi pénale est d'interprétation très stricte. Ce qui n'est pas dit, on ne doit pas l'inventer.
La défense a aussi estimé que ses clients sont en détention illégale. À la question de savoir si la Cour ne prend pas en compte les exceptions de la défense, Maître Haruna Touré répond.
On avisera, on vous dira comment on va faire.
Sikasso, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Gambie, que va-t-il advenir du président sortant gambien Yahya Jammeh après sa défaite, une semaine après l'élection du 1er décembre, remportée par le candidat d'une coalition de l'opposition, Adama Barrow? Plusieurs scénarios sont avancés. Yahya Jammeh, qui a accepté son échec à la présidentielle après 22 ans au pouvoir, est accusé de graves violations des droits de l'homme par des ONG locales et étrangères. Écoutons l'analyse d'Alioune Tin, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest.
Je pense aujourd'hui qu'il est de la responsabilité de l'Union africaine, l'ONU et de la CEDEAO de faire en sorte que la transition qui s'entame soit bien sécurisée, de faire tout pour que la Gambie ne soit pas déstabilisée. C'est le travail qu'il faut faire, mais je pense que Yahya Jammeh lui-même, pour que demain les gens soient prêts à pardonner, il faut effectivement qu'il rende compte. Voilà, la reddition des comptes, quand même, c'est quelque chose de très important pour la situation de la Gambie, pour ce que les gens ont souffert pendant 22 ans, pour ne plus recommencer. Et pour dire effectivement que c'est une nouvelle voie qui a été prise pour la Gambie.
Alioune Tin, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Afrique centrale maintenant, en RDC, lancement ce jeudi à Kinshasa de nouvelles négociations sous l'égide de l'Église catholique. Objectif, aider le pouvoir et l'opposition à sortir de l'impasse politique à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Les explications d'Abdourahmane Dia.
Cette toute nouvelle série de discussions a été lancée ce jeudi par Mgr Marcel Outembi, le président de la Conférence épiscopale du Congo, la CENCO. Il a dit qu'il espérait que les conclusions de ses travaux conduiraient à la paix et à la réconciliation, ainsi qu'à la tenue d'élections apaisées afin d'arriver à une alternance politique, comme le dit la Constitution. L'évêque se dit rassuré par les signaux qu'il qualifie de forts et encourageants provenant du président Kabila et de son opposant historique Étienne Tshisekedi, prévenant que l'enlèvement aurait des conséquences incalculables. Mgr Outembi a aussi transmis un message du pape recommandant aux acteurs politiques congolais de construire des ponts et non des murs. Cette rencontre à laquelle participent une trentaine de personnes des deux camps pourrait durer jusqu'à mardi avec l'espoir d'aboutir à un consensus sur le processus électoral à la fin du second mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre prochain.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Burundi et le Gabon promettent des sanctions contre les 41 casques bleus, 26 Burundais et 15 Gabonais, soupçonnés d'abus sexuels en Centrafrique par l'ONU, si les faits sont confirmés. Le porte-parole adjoint de l'armée burundaise, le major Komdaira Guillé, a déclaré à l'AFP, je cite, « S'il y a des cas avérés d'abus sexuels impliquant nos soldats, il n'y aura pas d'impunité. » La justice va s'appliquer dans ces cas-là, a ajouté le major Ndaïra Guillé en soulignant qu'une commission d'enquête avait été mise sur pied pour analyser et vérifier le rapport de l'ONU sur ces allégations. Plus tôt dans la journée, le ministre gabonais de la Défense, Étienne Massar Kabinga, avait fait une déclaration similaire en précisant que les personnes impliquées seront sanctionnées de façon appropriée, tout en préconisant par la même occasion le respect de la présomption d'innocence. Les abus sexuels commis par les 41 casques bleus de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, auraient eu lieu en 2014 et 2015. Et puis au Tchad, libération de Dinamo Daram, le président du Parti socialiste sans frontières, arrêté le 5 octobre 2016 pour avoir signé un communiqué de presse au nom du FONAC. Une coalition de l'opposition demande à la population de ne pas payer les impôts et les taxes illégales. Fait qualifié par le ministère public d'incitation au refus du paiement des impôts, condamné par l'article 113 du Code pénal tchadien. Au procès de M. Daram, le sixième substitut du procureur de la République, Abderrahmane Amat Abras, a réclamé aujourd'hui 12 mois de prison avec sursis pour le prévenu. Mais les avocats de la défense ont rétorqué que leur client avait signé un document au nom d'un groupe regroupement politique de l'opposition qui appelle à la désobéissance civile en refusant de payer les impôts et taxes illégales. D'où, selon eux, l'impossibilité d'appliquer l'article 113 du Code pénal en la matière. Le président du tribunal, Jamal Sylvestre, a statué en faveur de Dinamo Daram. Il a remis en liberté en ordonnant la restitution de ses biens confisqués à la police judiciaire. Politique aux États-Unis maintenant, le Parti démocrate s'interroge sur son avenir après la débâcle électorale de novembre qui lui a ravi la Maison-Blanche, tout en maintenant les républicains aux commandes des deux chambres du Congrès. Les précisions de Lionel Gaïma.
Dans le sillage de la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle face au républicain Donald Trump, les démocrates font leur examen de conscience, explique l'analyste John Fortier. Où le parti doit-il aller? Doit-il se tourner vers ses personnalités plus progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts ou le sénateur Bernie Sanders du Vermont? Qui pousserait le parti plus à gauche ou dans la direction choisie par Hillary Clinton, c'est-à-dire plus au centre? Le sénateur Sanders semble impatient d'assumer un rôle clé dans ce processus, exhortant les démocrates à réexaminer leurs efforts en direction des électeurs de couches laborieuses. Ils sont des millions de personnes aujourd'hui, des gens de la classe ouvrière, de la classe moyenne, des gens de bas revenus vivant dans le désespoir. Le besoin de changement a été bien illustré par la tentative infructueuse du député Tim Ryan de l'Ohio de déboulonner Madame Nancy Pelosi de son poste de chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants. Je crois dans mon cœur, dit-il, que si nous comptons gagner en tant que démocrates, nous devons avoir un message économique ayant un impact dans tous les coins de ce pays. L'avenir du Parti démocrate est aussi au centre des préoccupations du président sortant Barack Obama. Il doit donc y avoir des valeurs clés, ne devant pas faire l'objet du débat, et qui doivent être notre toile polaire. Mais nous devons prendre le temps de réfléchir sur la manière de nous organiser. De nombreux blancs de la classe ouvrière ont voté pour Donald Trump, souligne l'analyste conservateur Fred Barnes. Trump a accompli ce qu'à mon avis, les républicains n'allaient peut-être jamais réussir, gagner la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan et le Wisconsin, la ceinture industrielle qui compte tant de membres de la classe ouvrière, dont un bon nombre au chômage. Les démocrates du Congrès devront donc décider, après la cérémonie d'investiture présidentielle du 20 janvier, sur quel front ils s'opposeront à Donald Trump et sur quels autres ils trouveront un terrain d'entente.
Et pour terminer, au Burkina Faso, 43 personnes qui projetaient fin décembre 2015 de libérer les militaires emprisonnés après le putsch raté de septembre 2015 au Burkina Faso seront jugées le 20 décembre par un tribunal militaire. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le commandant Alioune Zanré. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.